Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous, avec les vœux les plus chaleureux, bien sûr, de la petite équipe d'affaires étrangères pour une année heureuse et en tout cas passionnante sur France Culture, bien sûr. Ils sont sur le terrain depuis 5 ans déjà, mais on ne s'en souvient qu'au moment des fêtes de fin d'année, quand le chef de l'État et la ministre des Armées leur rendent la visite et les hommages de circonstance. Les militaires français sont en action en Afrique, au cœur du Sahel, cette immense zone désertique qui traverse le continent dans toute sa largeur. Leur rôle, contenir la menace djihadiste qui ébranle ces pays pauvres et instables qui ont nom le Mali, le Niger, le Burkina, la Mauritanie et le Tchad. Des États largement faillis pour la plupart, incapables de protéger leur population et de contrôler la totalité de leur territoire. De quel mouvement djihadiste s'agit-il donc aujourd'hui ? L'intervention française a-t-elle changé la donne ? À quoi sert cette opération surnommée Barkhane qui implique à grands frais quelques 4500 hommes ? Comment s'inscrit-elle dans un contexte régional plus marqué que jamais par les rivalités entre ethnies et milices armées ? Une forme de coopération militaire a été ébauchée entre les pays membres du G5 Sahel. Peut-elle véritablement prendre le relais? L'ONU, de son côté, finance des contingents de casques bleus à l'efficacité douteuse malgré leur nombre important. Si la solution militaire apparaît à beaucoup comme un leurre, quels peuvent être les objectifs réalistes des Occidentaux impliqués au moment où la Russie fait une irruption spectaculaire un peu plus au sud, dans un petit pays nommé la Centrafrique? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Alain Antil, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le Centrafrique subsaharienne de l'IFRI et vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Lille. Alexandra Novoselov, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheuse associée à l'International Peace Institute de New York et au centre Thucydide de l'Université Paris-Panthéon Assas. Henri Bernard Solignac-Lecomte, vous dirigez la communication pour le développement à l'OCDE et nous aurons tout à l'heure avec nous par téléphone Anne Doquet qui est anthropologue chargée de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Alain Antil, expliquez-nous comment cette intervention militaire française, décidée donc par François Hollande il y a 5 ans tout juste, s'est déroulé en fait au moins en 2 étapes, si j'ai bien compris.
Oui, la première intervention française à laquelle vous faites allusion, c'est l'opération Serval, qui démarre en janvier 2013. Elle a 3 objectifs principaux. Stopper la progression des groupes islamistes qui ont décidé de descendre vers le sud, reconquérir les villes qui étaient occupées par ces groupes djihadistes, et enfin détruire les bases logistiques de ces groupes. Ces 3 objectifs ont été remplis. Et un peu plus d'un an plus tard, au mois d'août 2014, est créée l'opération Barkhane, qui est une opération qui a des objectifs complètement différents, qui concerne non plus le seul Mali, mais les pays que vous avez énumérés tout à l'heure, dont le commandement est à N'Djamena au Tchad. L'opération Barkhane remplace 2 opérations, l'opération Serval et l'opération Épervier, qui avait cours depuis 1986 au Tchad. Et les 2 objectifs de cette opération Barkhane, c'est de d'aider les armées des 5 pays à lutter contre le péril djihadiste, et 2, aider ces mêmes armées à collaborer ensemble. Ce qui est un des grands problèmes de cette zone, c'est que des pays voisins avaient peu l'habitude de coopérer, d'échanger des renseignements, connaissaient même parfois mal les interlocuteurs de l'autre côté de la frontière. Et ça, c'est un objectif important de Barkhane.
Donc Barkhane, c'est quoi ? C'est 4500 hommes, le coût c'est à peu près 700 millions d'euros par an, semble-t-il. Il y a eu 12 morts français, hein, je crois, 12 militaires français tués depuis 2014. Il y a des partenaires qui accompagnent Barkhane, à commencer par les Américains.
Les Américains sont présents dans la zone depuis le début des années 2000. Ils ont lancé, ils avaient des coopérations avec le Mali un peu plus anciennes, mais ils ont commencé à lancer des coopérations entre pays sahéliens et maghrébins, à travers notamment des exercices annuels qu'on appelle les Flintlock. Néanmoins, ils sont beaucoup moins présents que les Français. Ils ont plutôt tendance en ce moment à se retirer, notamment depuis l'arrivée du président Donald Trump et notamment depuis une mésaventure assez tragique qui s'est passée pour certains militaires américains au Niger. Néanmoins, ils restent très présents, notamment en termes de renseignements. Ils ont beaucoup de drones et ils sont des précieux alliés pour les Français, notamment en matière de renseignements.
En revanche, les Européens sont assez peu venus à la rescousse. Il y a des Britanniques quand même.
Il y a des Britanniques et aussi pas mal d'Allemands qui sont maintenant disposés, notamment dans le cadre, je crois, de la MINUSMA. On aura l'occasion d'en
parler. Mais avec des équipements dans un état absolument déplorable, à tel point que la ministre allemande des armées, enfin de la défense, comme on dit là-bas, a dû s'excuser parce que je crois que les hélicoptères ne décollaient pas. Enfin,
oui, puis surtout, je crois que il faut bien avoir conscience que les règles d'engagement des différents pays sont très différents. Notamment, l'Allemagne n'est pas là pour envoyer ses soldats combattre les djihadistes, mais pour faire de l'interposition ou de la sécurisation de villes ou d'infrastructures ou d'axes routiers. Donc, c'est pas du tout la même mission que Barkhane, par exemple.
Alexandra Novoselov, vous avez beaucoup travaillé sur les Nations Unies, la manière dont les casques bleus en particulier sont intervenus, continuent d'intervenir dans plusieurs régions du monde, et singulièrement au Mali, où il y a donc une force tout à fait considérable de casques bleus.
Oui, il y a plus de 15 000 personnels déployés. Sur ces 15 000, il y en a environ 13 800 qui sont des militaires et des policiers.
De quelle nationalité prioritairement ?
Alors les principaux, c'est les pays africains. Le premier contingent, c'est le Burkina Faso. Ensuite, il y a le Tchad. Il y a aussi un contingent important, 1500 hommes à peu près, du Bangladesh et puis le Sénégal, Togo. Voilà, c'est les principaux contributeurs.
Et donc ça, c'est un budget considérable aussi.
C'est 1 milliard par an. C'est aussi une force qui a eu beaucoup de morts. Il y a 177 casques bleus qui ont péri depuis 2013. Il faut le rappeler.
Mais quel est leur mandat ? Est-ce que c'est le même que Barkhane ? Est-ce qu'ils complètent l'opération française ?
Alors, la MINUSMA a été déployée en 2013 suite à un premier déploiement de soldats africains, qui ne pouvaient pas se soutenir sur la durée. Donc, les Nations Unies ont pris le relais de AFISMA à l'époque, ou MISMA, c'était la mission de l'Union africaine.
Pour et dans donc quel but, l'idée, pour stabiliser l'idée, le Mali qui partait
voilà,
en
l'idée
pièce.
Première, c'était d'abord de stabiliser les grands centres urbains, c'est-à-dire à faire un espèce de contrôle de zone dans les principales villes, notamment au nord, situées au nord. Et puis, l'autre aspect, c'était quand même de permettre qu'un accord de paix puisse être négocié dans de bonnes conditions. Et c'est ce qui a été fait avec l'accord d'Alger qui a été signé en 2015.
Mais un accord qui impliquait des mouvements Touareg, donc qui sont évidemment très présents au nord du Mali, le gouvernement malien, mais un accord qui s'est enlisé en 3 ans.
Oui, parce que il faut quand même le dire, le gouvernement malien ne joue pas le jeu. En tout cas, ne trouve pas un intérêt à respecter l'accord d'Alger. Et puis c'est vrai
qui accordait aux Touaregs un degré relatif d'autonomie dans leur dans leur région.
Et c'est vrai que l'insécurité également est descendue vers le centre. Hein, et que là, il y a de nouveaux défis à surmonter. Et est-ce que on doit incorporer les problématiques du centre dans cet accord? C'est toute la problématique de ces prochains mois, en sachant que les groupes qui sont au centre n'ont pas forcément un agenda politique aussi clair que l'avaient les groupes armés au nord.
Alors précisément, Alain Antil, quelle est la typologie des forces en présence? Parce qu'au départ, on dit, bon, il faut contenir la menace djihadiste. De quel mouvement s'agit-il au départ? Ce sont des mouvements touareg liés plus ou moins à Al-Qaïda en passant par la frontière algérienne, c'est ça le,
en fait, en 2012, il y a quatre mouvements armés qui prennent les armes contre le gouvernement malien et son armée. Il y a trois mouvements qu'on peut qualifier de la salafie djihadiste. Il y a évidemment ACMI qu'on ne présente plus. Il y a le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest et un autre mouvement qui s'appelle Ansar Eddin. ACMI et le Mujao sont très marginalement Touareg. Ansar Eddin est plus Touareg. Et puis, il y a un quatrième mouvement qui, lui, a un agenda complètement différent, qui s'appelle le Mouvement national de libération de l'Azawad, qui, lui, est un mouvement non-religieux.
L'Azawad, c'est donc la dénomination
du nord du Mali par les gens qui veulent l'autonomie ou l'indépendance du nord du Mali. Et ce mouvement, qui est au départ le plus puissant et le plus nombreux, lui veut l'indépendance du nord Mali et est effectivement composé essentiellement de Touaregs, mais ne représente pas tous les Touaregs. Parce que les populations Touaregs sont fractionnées en tribus et tout ça, et dans l'armée malienne, il y a des Touaregs qui ont combattu le MNLA, si vous voulez. Aujourd'hui, la situation est très différente parce qu'on a une multiplication des groupes armés, on en a au moins une quinzaine, et je dirais qu'on peut les répartir en parlant d'abord du Nord Mali en trois catégories. Il y a les groupes salafis djihadistes qui ont été vaincus par l'opération Serval, mais qui existent toujours, qui se sont rassemblés pour certains au sein d'une alliance qui s'appelle le groupe pour le soutien à l'islam et les musulmans.
Et ça, c'est dirigé donc par cet émir dont on a trouvé le portrait, notamment dans Le Monde, je me souviens, qui s'appelle Iyad Ag-Ghali, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, qui est un Touareg qui est originaire de la zone de Kidal et qui a un passé de pas de guerrieros, mais en tout cas, il a participé à des mouvements indépendantistes précédents. À côté de ça, donc il y a ces groupes au nord de salafistes, djihadistes, et puis il y a deux autres catégories. Il y a les groupes armés qui sont pour l'indépendance ou l'autonomie, qui sont signataires de l'accord d'Alger, comme le MNLA, le HCUA, ce qu'on appelle les groupes armés signataires. Et puis il y a une autre catégorie de groupes armés qui sont pro-Bamako, que Bamako utilise parce que son armée est
Bamako, donc la capitale du Mali. Donc, en principe, le lieu où l'État devrait exercer son autorité. L'État devrait exercer son autorité.
C'est ce qu'on appelle au Mali la plateforme. C'est ce qui regroupe les groupes armés et les milices qui sont pour Bamako contre les autonomistes. Et là, vous avez des mouvements comme le Gatia, qui est un mouvement Touareg. Vous avez des mouvements Peul, vous avez des mouvements Sonra et Gandalf.
Donc il y a une atomisation complète avec des milices armées.
Et puis des groupes qui se sont scindés en deux. Par exemple, vous avez un groupe qui s'appelle le MAA. Il y a une partie du MAA qui est dans la plateforme et une autre partie qui est chez les autonomistes.
Mais quel lien avec le djihad arabe? parce que la menace évoquée donc il y a 5 ans, répétée d'ailleurs par le président de la République le 22 décembre quand il est allé à N'Djamena passer Noël avec les troupes, il a fait allusion à l'attentat de Strasbourg en disant « Vous voyez, la menace terroriste perdure et donc votre rôle reste évidemment éminemment important ». Mais jusqu'à quel point ces mouvements djihadistes dans cette zone du Sahel sont-elles liées ou non au djihad arabe tel qu'il a frappé nos pays en particulier ?
Dans l'état actuel des connaissances, il n'y a pas d'attentat sur le territoire européen et a fortiori français qui a été organisé depuis des katibas sahariennes. Après, il y a des circulations d'individus.
Est-ce qu'il y a du financement ? Est-ce que Daesh, par exemple, organiserait, aurait contribué ou contribuerait toujours au financement de certains de ces mouvements ?
Comme vous le savez, Daesh, c'est il y a le mouvement principal qui est au Levant, et puis il y a des mouvements qui se sont rattachés à Daesh. Boko Haram, dont on parlera tout à l'heure, s'est rattaché à...
Donc Boko Haram, c'est dans la région du lac Tchad, notamment le nord du Nigeria.
Voilà, et puis il y a un mouvement, le Mujao dont je parlais tout à l'heure, il y a une partie du Mujao qui s'intitule aujourd'hui le IGS, l'État islamique au Grand Sahara. Mais il y a beaucoup de spéculations sur les financements qui viendraient de l'extérieur, tout ça. C'est très compliqué de faire la part des choses. La plupart des financements sont des financements locaux, des gens qui prélèvent des taxes sur des circulations de marchandises, des gens qui participent au trafic. Les financements extérieurs sont souvent plus fantasmés que réels. Et puis, en tout cas pour Boko Haram, on sait par contre qu'il y a des connexions directes avec la direction de l'État islamique au Levant. En tout cas sur des ordres et sur des... Il y a une reconnaissance vis-à-vis de ces gens-là.
Alain Bernard Solignac Lecomte, la manière dont Alain Antil nous a décrit en fait donc une mosaïque de mouvements qui en fait bénéficient du chaos ambiant. Donc jusqu'à quel point est-ce que les différents protagonistes auxquels les forces françaises et les casques bleus sont censés faire face, en fait, ils ont tous intérêt à ce que ce désordre perdure.
Oui, la nature a horreur du vide, en fait. Et là où l'économie formelle, l'économie licite n'est pas capable de donner aux populations des perspectives sociales, des perspectives économiques, il y a la place pour le commerce illicite. Et aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on a bien sûr du mal à estimer la part de ces flux illicites, mais les estimations les meilleures qu'on ait nous disent qu'il y a à peu près, pour l'ensemble du continent, à peu près 50 milliards de flux illicites tirés alors de divers trafics. Il y a le trafic de drogue, bien sûr, mais c'est d'abord en Afrique de l'Ouest le commerce illégal de ressources tout à fait licites, qui sont notamment l'or, à peu près 3 milliards de dollars, et les ressources pétrolières, notamment au Nigeria, où on estime à peu près que ces flux illicites dans la région sont entre 3 et 8 milliards. Donc vous voyez, c'est très très large, mais c'est très difficile à estimer.
Et par rapport et le narcotrafic, qui s'est quand même beaucoup développé en utilisant ces voies de passage.
Alors là, c'est surtout la cocaïne, donc très peu en fait de revenus restent dans la région. On estime à peu près par an les flux à 40 tonnes de drogue, de cocaïne, qui passent par les ports ouest africains pour un montant environ d'un peu plus de 2 milliards de dollars. Mais la part qui reste dans la région, c'est, selon les estimations, au plus 40-50 millions de dollars.
Et puis, il y a le trafic des êtres humains, évidemment, les passeurs, enfin, oui. Tous ces malheureux qui passent par les fourches caudines des différentes milices armées et qui traversent même ces régions désertiques du Nord Mali.
Alors le trafic des réfugiés qui veut atteindre les côtes européennes, mais il y a aussi beaucoup de trafic d'êtres humains, à peu près pour les mêmes montants estimés, à l'intérieur de la région. C'est du travail des enfants dans les plantations de cacao, c'est des travailleuses du sexe. Donc c'est pas simplement des flux de l'Afrique vers l'Europe.
Et puis il faut rappeler évidemment Sophie Pétronin, qui est donc cette Française, qui a 73 ans aujourd'hui et qui est détenue au Mali depuis décembre 2016. Tous ces trafics correspondent aussi, évidemment, à une sorte de concurrence entre les différentes milices, les différents mouvements dont on parlait tout à l'heure.
Oui, nos collègues autour de la table sauront le dire mieux que moi, mais je pense qu'il y a un peu une ambiguïté sur les finalités. C'est-à-dire qu'au départ, le commerce illicite aide les groupes terroristes à financer leur activité, à s'attacher des populations, par exemple, à donner de l'argent aux familles dont elles recrutent les enfants. Mais il y a un moment où ces flux finissent par être une finalité en eux-mêmes, et donc l'appât du gain, je dirais, la logique purement criminelle économique peut coexister avec la logique politique et terroriste.
Et ça explique aussi des violences interethniques auxquelles on assiste périodiquement.
Les violences interethniques, dans toute l'histoire de l'humanité, en fait, elles sont jamais le facteur déclenchant des crises. Elles sont en général un carburant qui est utilisé par l'entrepreneur politique qui sait utiliser ses dissensions, ses inimitiés historiques à son propre profit.
Précisément, Anne Doquet, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes anthropologue et spécialiste en particulier des Dogons, qui sont donc qui est cette population principalement au Mali, dans le centre du pays. Et on a appris il y a quelques jours qu'il y a eu 37 morts, je crois, dans un village Peul, donc les Peuls étant l'une des grandes ethnies disséminées dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Et donc, victime d'une attaque, si j'ai bien compris, de chasseurs dogons. Jusqu'à quel point est-ce que ces violences que vient de nous l'expliquer Henri-Bernard Solignac-Lecomte sont-elles d'abord des rivalités au niveau des ressources économiques ou ont-elles des racines ethniques, culturelles, religieuses?
Bonjour, oui, effectivement, il y a la part de la situation économique en pays Dogon est énorme et les intérêts pour les ressources communes sont absolument énormes, déterminants dans la montée de violence qu'on voit apparaître depuis plusieurs années. C'est pas du tout nouveau. C'est vrai qu'on a un épisode un peu culminant ces derniers jours, en tout cas qui a été plus médiatisé que d'autres, mais même avant les événements de 2012, on a des conflits sanglants comme ça qui ont pu faire plusieurs dizaines de morts entre Maure et Dogon. En tout cas, tous les ans, il y a toujours des violences qui entraînent la mort de plusieurs personnes. Parce que, notamment, les problèmes de transhumance du bétail des éleveurs, et qui sont majoritairement peuls dans la plaine Dogon, deviennent de plus en plus accrus. En particulier parce que les problèmes du Nord ont impliqué que les routes des transhumances ont été petit à petit fermées au Nord et se sont plus concentrées sur le centre, mais aussi parce que la crise a entraîné une chute drastique du tourisme qui a fait que des gens qui vivaient du tourisme en Pays Dogon, c'était une ressource principale de la zone, se sont déplacés pour se remettre à cultiver dans les plaines, créant là aussi des compétitions pour les terres avec les peuls. Donc c'est très souvent des problèmes d'ordre foncier, en fait, qui petit à petit dérivent vers des situations conflictuelles meurtrières qu'on qualifie peut-être un peu trop vite de violence ethnique.
Jusqu'à quel point est-ce que les conditions climatiques aggravent encore cette situation, parce que on voit bien que la désertification progresse et que donc les ressources en terres arables diminuent.
Oui, mais c'est la recrudescence des violences intercommunautaires est très souvent liée à des périodes de sécheresse. Et c'est une évidence que c'est le manque du terre et la compétition pour le peu de terre qui reste qui est à l'origine. Donc forcément, dans les périodes de sécheresse où le mil se fait rare, il y a beaucoup plus de recrudescence de violence, oui, tout à fait.
Et donc cela veut dire que ce que nous appellerions l'État, enfin que le système étatique malien est totalement absent.
Il est totalement absent, ça serait peut-être un poil exagéré, mais c'est évident que c'est l'absence d'État depuis plusieurs années dans cette zone qui est responsable de la situation. D'ailleurs, on a remarqué, par exemple, que la période d'accalmie entre les milices Peul et Dogon, au pays Dogon, il y a quelques mois, était tout simplement dû au fait que du retour de l'État qui était venu pour un petit peu sécuriser la zone en vue des élections présidentielles pour que le vote puisse tenir. Et il y a eu immédiatement une accalmie politique, une accalmie des affrontements entre les milices. Donc l'absence d'État est d'ailleurs le premier critère revendiqué par la milice Dogon d'Anna Massagou qui est censée, enfin apparaît comme la potentielle responsable du massacre des 37 Peuls dans ce village il y a quelques jours. Ce qu'il revendique avant tout, c'est un retour de l'État dans la zone, un retour des forces militaires notamment qui ont complètement disparu.
Et quelle réaction par rapport à la présence et à l'action des troupes françaises ?
Bon, les troupes françaises en pays Dogon, il y a eu une opération, d'ailleurs c'était elle qui a formé les premiers miliciens de la milice des chasseurs d'Anna Massagou. Il y a eu une opération dans la plaine du Sénot, mais qui date maintenant de plus de 2 ans. Mais sinon, la présence justement des forces françaises qui est bien là au nord, l'est beaucoup moins au centre et en particulier beaucoup moins en pays Dogon. Donc effectivement, les revendications là-bas, c'est mais il n'y a pas d'État, tout est pour le nord, toute l'aide est pour le nord et personne ne nous aide, pas plus la MINUSMA que l'État ou que d'autres acteurs importants qui pourraient remédier à la situation. Donc c'est vraiment une insécurité grandissante depuis maintenant 5-6 ans qui font que le recours aux acteurs armés est la seule solution envisagée par les populations, sachant que les populations d'ailleurs ne sont pas toujours toujours d'accord avec les conflits meurtriers auxquels elles assistent. Hein. Le mouvement d'autodéfense d'Anna Massagou en pays Dogon ne reçoit pas forcément l'approbation des populations locales, qui en fait craignent aussi des représailles s'ils ne plient pas ou s'ils n'apportent pas leur soutien de façon officielle. Hein. Donc là aussi, on peut pas trop schématiser et dire c'est les Peuls contre les Dogons, parce que les Dogons eux-mêmes, les villageois Dogons eux-mêmes ne l'adhèrent pas forcément aux actions menées par le mouvement d'autodéfense de Nambassagou, de même que dans le monde Peul, on ne trouve pas forcément le même soutien au mouvement armé Peul. Donc ça limite aussi l'idée d'affrontement ethnique généralisé entre Peul et Dogon.
Anne Dequet, merci pour ces éclaircissements. Alain Antil, on comprend bien donc cette décomposition, en tout cas cette atomisation et cette multiplication des protagonistes, qu'en fait les populations sont désespérément en recherche de protection.
Oui, c'est le besoin de sécurité qui anime beaucoup de ce dont nous venons de parler. Parce que quand deux communautés sont en compétition pour l'accès à des terres ou des ressources en eau, et que l'État est incapable de réguler ces compétitions par son système judiciaire, eh bien, il y a une dérive violente. Les populations s'arment, forment des milices, et on a comme ça des micro-conflits qui naissent un peu partout aujourd'hui dans le centre du Mali, mais aussi au nord du Burkina Faso, à l'est du Burkina Faso. Et certains.
Oui, il y a la zone des trois frontières, qui est ce triangle très étroit, où se rejoignent donc le Mali, le Niger, le Burkina, et là, il y a une sorte de diffusion à la fois des milices et des incidents.
Une des grandes évolutions par rapport à, disons, à l'époque de l'opération Serval, c'est que les zones de conflit se sont étendues. Se sont étendues au centre du Mali, on vient d'en parler, au nord du Burkina Faso, maintenant à l'est du Burkina Faso, à l'ouest du Niger. Et il y a eu des actes violents aussi au sud-est du Burkina. Et on peut raisonnablement penser que dans un avenir proche, des pays du Golfe de Guinée, notamment le Bénin et peut-être le Togo, pourraient connaître aussi ce type de problématiques.
Donc c'est paradoxal. Je veux dire, encore une fois, la France est militairement présente depuis 5 ans. Et ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, le danger est notamment le danger pour les populations d'abord, c'est démultiplier en quelque sorte.
Oui, parce qu'on est face à des... Déjà, si on prend l'exemple du Mali, il faut avoir conscience qu'on a des États avec des territoires immenses. Le Mali, c'est plus d'un million de kilomètres carrés.
Et avec donc, par rapport à la France,
c'est presque le double, un peu plus du double même. Mmh. Et avec des appareils sécuritaires très petits. Si on additionne les militaires, les policiers, enfin toutes les forces de sécurité maliennes, je crois qu'on atteint le chiffre de 20 000 à peu près. Des forces de sécurité mal armées, mal entraînées et qui n'ont pas résisté plus d'un mois ou deux aux assauts des quatre groupes en 2012.
D'où l'intervention française.
D'où l'intervention française. Et le problème, c'est que l'armée malienne est en reconstruction. Ça va mettre au moins 10 ans. Et les forces de sécurité maliennes sont pas dans l'incapacité totale, mais en tout cas ont du mal à assurer ce bien précieux qu'est la sécurité aux populations.
Mais même chose semble-t-il pour les militaires français de Barkhane, qui sont-ils en nombre insuffisant ou est-ce que leur mission, leur mandat est devenu trop ambigu?
Non, c'est pas leur mission, c'est pas d'aller sécuriser les villages Dogon ou Peul contre les coupeurs de route ou les milices voisines. Ils ont un mandat qui est très clair et à mon avis, il faut le répéter, c'est de soutenir l'effort de ces pays contre les groupes salafis djihadistes et d'aider les armées à coopérer entre elles.
Oui, mais à partir du moment où certains villages se mettent, semble-t-il, délibérément sous la protection de groupes djihadistes contre d'autres milices qui n'ont rien à voir avec elles. Enfin, tout ça devient quand même extrêmement complexe.
Oui, mais la réponse militaire n'apporte pas vraiment de solution pour cette configuration, parce que la réponse que ces populations attendent, c'est que si demain l'armée malienne ou burkinabé ou les forces de police font leur travail, ont la capacité de faire leur travail et de sécuriser ces zones, si les systèmes de justice nationaux fonctionnent normalement, si les élites sont moins corrompues, on n'aura pas ces phénomènes qui sont liés à ces trois problèmes majeurs sur lesquels Barkhane ou la MINUSMA ont peu de prise en vérité.
La MINUSMA, précisément, Alexandra Novoselov, donc la MINUSMA, c'est la mission des Nations Unies, les casques bleus en nombre considérable, vous nous l'expliquiez tout à l'heure, mais à quoi servent-ils?
Non, justement, je crois qu'il faut ramener les choses à leur juste mesure. C'est-à-dire que 15 000 hommes, d'abord c'est à peu près 13 000 soldats sur un territoire deux fois plus grand que l'Afghanistan, par exemple, où il y avait à l'époque, au plus fort de la guerre en Afghanistan, 130 000 soldats. Donc, vous voyez,
oui,
on
et là,
peut pas
sans
tout
que
faire
les résultats, sans que les résultats soient très probants non plus.
Exactement, c'est là où il y a un problème d'approche, c'est-à-dire que il n'y a pas de solution militaire à un conflit. Il faut revenir aux politiques, et si l'État malien lui-même ne va pas dans ce sens, bien entendu la MINUSMA pousse vers ça, et je crois que les actions de la MINUSMA au quotidien, il faut pas oublier tous les civils qui travaillent pour la MINUSMA, qui vont faire des actions proches, au plus proche des populations, mais c'est sûr que avec cette menace djihadiste, c'est vrai que la MINUSMA a tendance à se bunkériser, et donc les actions sont moins importantes, moins nombreuses que ce qu'on pourrait en attendre. Mais ça, les moyens aussi, encore une fois, 1 milliard de dollars, c'est rien du tout pour une opération militaire qui devrait avoir les moyens de se protéger. Or, aujourd'hui, ce n'est pas encore totalement le cas.
Et comment se passe la coopération ou la juxtaposition entre les Français de Barkhane et les casques bleus?
Alors, c'est vrai que ils ont des déploiements parallèles et un peu qui se chevauchent, notamment
mais coordonnés, on imagine.
Alors, il y a une Il y a une certaine coordination, même si c'est vrai que c'est très délicat pour la MINUSMA, puisque la MINUSMA ne fait pas de lutte contre le terrorisme et ne veut pas être être affichée comme telle et être confondue avec les soldats de Barkhane. Donc, pour la MINUSMA, il s'agit de se détacher un peu des actions que pourrait faire Barkhane. Maintenant, c'est vrai que par exemple à Gao, ils sont colocalisés ou pratiquement. Il y a beaucoup d'implantations pour des raisons un peu d'économie de moyens et puis pour des raisons aussi de protection, hein, tout simplement. Donc là, ça pose effectivement problème et ça pose problème depuis le départ aux autorités de la MINUSMA qui veulent pas être ciblées pour des choses qu'elles ne mènent pas, pour des actions qu'elles ne doivent pas mener et qu'elles n'ont pas les moyens aussi de mener. Donc il y a une volonté de se séparer. C'est pas toujours évident pour des raisons logistiques.
Donc la MINUSMA, on l'a bien compris. Donc ça c'est le Mali en oui. gros, mais il y a aussi la MINUSCA.
Oui.
Et là on passe en Centrafrique,
oui.
qui est donc ce petit état charnière qui est en gros
au
légèrement
centre.
Au sud-est ouais. du Mali. Et là, on se souvient que les Français étaient intervenus. Ça s'appelait l'opération Sangaris entre 2013 et 2016. Et puis les Français se sont retirés. Il y a des casques bleus. Mais la situation en Centrafrique est comment dire cela presque encore pire. Il semble, j'ai lu ça quelque part, que les militaires français, les Africains, les militaires français qui ont une longue mémoire de l'Afrique, ont surnommé ce pays, pardon pour l'expression, peau de pu. Il y aurait tellement de milices, tellement d'instabilité, non seulement entre ces mouvements musulmans du Nord, qu'on appelle les Séléka, et les chrétiens, les anti-Bakala, il semble que entre ces deux forces principales, il y a aujourd'hui, là aussi, une atomisation
oui.
des forces, des milices et donc des multiplications des violences.
Oui, et puis bon, c'est vrai que la MINUSCA a plus de 14 000 personnes déployées sur le terrain, mais là encore, dans un pays aussi grand, alors c'est moins grand que le Mali, mais quand même, elle ne peut pas tout contrôler. Donc c'est vrai que la nature ayant horreur du vide, c'est vrai que là où la MINUSCA est présente dans les grands centres urbains, pour faire court, et c'est vrai qu'elle a du mal à aller au-delà. Et c'est là que sont les groupes armés et elle n'arrive pas à contrôler les grandes routes. Et donc, c'est ça qui pose problème. En même temps, elle n'a pas les moyens de faire ça.
Mais donc, les populations sont souvent indignées. Il y a eu plusieurs témoignages au cours des dernières semaines où on voit... Oui, l'indignation de certains responsables, en particulier religieux, catholiques, vis-à-vis non seulement de l'impuissance, mais de l'inaction des
alors,
casques bleus.
Bien entendu, c'est vrai que l'objectif, c'est de protéger les populations, la protection des civils, comme on dit aux Nations Unies. Mais souvent, les gens pensent que ce doit être décliné en tâches. Or, c'est un objectif... général, mais que les moyens, encore une fois, ne sont pas là et que c'est vrai qu'il y a des contingents qui considèrent que ils ne veulent pas mourir entre guillemets pour ce pays, pour ces gens-là et que ils sont plutôt en retrait.
Donc des contingents dont les
timorés
envoyés par leur gouvernement qui récoltent des devises donc à partir du budget onusien.
Oui.
Mais effectivement des militaires qui ne sont pas nécessairement ni formés ni motivés pour la tâche qu'ils auraient à accomplir.
Oui, je crois que la tâche est tellement énorme. Malheureusement, c'est toujours ce genre de choses qu'on rencontre dans les opérations de maintien de la paix, parce qu'encore une fois, elles ont très peu de moyens. c'est très éloigné des préoccupations des pays qui contribuent en troupes. Et plus vous êtes éloigné des intérêts de ces États-là, moins vous avez des troupes qui veulent payer le prix du sang, entre guillemets. Donc c'est ça les dilemmes des opérations de maintien de la paix. Je crois qu'il faut le dire très nettement, et il faut revoir les ambitions et essayer de diminuer un peu les attentes des populations civiles. Or c'est très difficile de faire ça, parce que effectivement, dès qu'il y a un casque bleu, on pense que ça y est, c'est fini et que on va être protégé. Et malheureusement, c'est pas souvent le cas. Ça l'est quand même. On peut pas dire que ces opérations de maintien de la paix sont complètement inefficaces. Ce n'est pas vrai. Mais elles ne peuvent pas être partout parce qu'elles ont des moyens qui sont extrêmement limitées. Elles sont faites à l'économie. Hein. Donc ça, il faut revoir encore les ambitions, et peut-être que dans un futur proche, les déploiements seront beaucoup plus modestes. Mais on ne peut pas prétendre déployer un soldat derrière chaque civil. Ce n'est pas possible.
Bien sûr, d'autant qu'évidemment, les pays membres du Conseil de sécurité en particulier ne sont pas toujours d'accord, c'est le moins que l'on puisse dire, de moins en moins d'accord.
Et qui sont les grands contributeurs financiers à ces opérations.
Alors, on voit un pays qui a fait irruption véritablement en Centrafrique. Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International. Ce pays, c'est la Russie. Et tout à coup, on a vu des conseillers russes, plus ou moins publics, plus ou moins privés, s'intéresser à ce petit pays d'Afrique centrale.
Oui, effectivement, impossible en tout cas de ne pas remarquer cette présence russe dans les rues grouillantes de Bangui, écrit un journaliste du site d'information Le Daily Beast. En arrivant à l'aéroport, écrit-il, on voit par exemple trois hommes parlant russe, faisant la queue pour les passeports, chargés de sacs militaires kaki. Le chauffeur de taxi a accroché les drapeaux russes au-dessus de ses phares qui claquent au vent quand il démarre, poursuit le reporter. Alors s'il y a un homme qui symbolise ce rapprochement entre la Russie et la République centrafricaine, eh bien c'est Valéry Sakharov, surnommé par les médias le proconsul. Le journaliste du Daily Beast l'a rencontré et il titre même « N'est-il pas au cœur des magouilles russes en Centrafrique ?» Car c'est vrai, raconte le site américain, Moscou est accusé de toutes les malversations, trafic de diamants, déploiement mystérieux de mercenaires russes, meurtre de journalistes, autant d'allégations que Valéry Sakharov, promu conseiller national à la sécurité du président de Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, balaie d'un revers de main. Tout cela ne sont que des rumeurs, répond le russe. Mais le Daily Beast l'affirme. Depuis 2016, la Russie a livré au moins 7 cargaisons d'armement à la Centrafrique. Elle y emploie 255 conseillers civils, sans parler des instructeurs militaires dont l'effectif lui reste confidentiel. Mais ce n'est pas tout, poursuit le journal. Le sous-traitant paramilitaire privé Wagner Group, lié au Kremlin, et qui a opéré en Ukraine et en Syrie, est lui aussi très actif en Centrafrique. Et 3 journalistes russes qui se sont rendus sur place en juillet dernier pour enquêter sur la société Wagner sont morts dans d'étranges circonstances. Alors, si les journaux anglo-saxons ou français s'affolent de cette irruption russe en terre africaine, Valéry Sakharov, lui, tente de l'inscrire dans une perspective historique. Elle est la continuation des efforts de l'Union soviétique sur le continent africain qui ont pris fin lorsque l'État communiste a disparu, explique-t-il. Le russe rappelle au passage que son pays a été présent en Centrafrique dès 1964. On a aidé à construire les infrastructures de ce pays. Il y avait des enseignants russes dans les écoles et des médecins russes dans les hôpitaux. Et à présent, nous sommes de retour, conclut-il dans cette interview exclusive à Daily Beast.
Et quelles sont les motivations de Moscou ?
Bien, si on revient en arrière, en février 2016, Faustin Archange Touadéra remporte cette élection présidentielle en République centrafricaine. Et selon le journal russe en ligne Zgliad, la priorité du nouveau président à l'époque, c'est d'assurer la sécurité. Si les Français n'ont pas été capables de le faire, pourquoi ne pas laisser les Russes tenter leur chance, s'interroge le journal, et pas seulement d'ailleurs en République centrafricaine, car cette offensive russe vise l'ensemble de l'Afrique, explique de son côté le Financial Times. La Russie, dont l'influence sur le continent fut colossal pendant la guerre froide. Il réaffirme sa présence, concluant des accords de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la République centrafricaine et le Mozambique, et autorisant des ventes d'armes au Nigeria et à l'Angola, détaille le quotidien de Londres. Derrière cette stratégie, on trouve un très proche de Vladimir Poutine, auquel s'est intéressé le site américain Bloomberg. Il s'agit de Yevgeny Prigozhine, 57 ans, ancien voyou, reconverti en homme d'affaires très secret, même si son nom a surgi il y a quelques mois dans l'enquête du procureur Robert Mueller aux États-Unis sur justement l'ingérence russe dans l'élection présidentielle américaine. Et bien c'est lui, racontent les journalistes de Bloomberg, qui, avec sa flopée de mercenaires et de relais politiques, propose des services de sécurité, de formation aux armes ou d'organisation d'élections en échange, entre autres, de concessions minières. Selon Bloomberg, il est déjà actif dans 10 pays africains et ce regain d'activité arrive précisément au moment où Vladimir Poutine prépare, lui, un premier sommet russo-africain en 2019 à Moscou qui est censé accueillir plus de 50 dirigeants. On le voit, la Russie fait donc son retour en Afrique et comme le confie un ancien ambassadeur de Russie dans plusieurs pays africains au Financial Times, on est loin derrière tout le monde, mais ça ne va pas durer.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Henri Bernard Solignac-Lecomte, je rappelle que vous vous occupez de développement au sein de l'Organisation de coopération et de développement économique. Vous en dirigez la communication de ce département, qui est évidemment très important parce que l'OCDE, regroupant les pays les plus riches de la planète, sont censés avoir à cœur tous les problématiques du développement. Et on comprend bien, grâce à nos amis ce matin, qu'il n'y a pas de solution militaire, il n'y a pas de solution internationale livrée clé en main par les Nations Unies. Donc on en revient à des enjeux de développement dont on ne voit pas non plus très bien, hélas, les méthodes, ou en tout cas les recettes.
Alors, il est clair qu'il n'y aura pas de solution sans un développement économique et social accéléré, mais celui-là ne suffira pas. Ce sera absolument nécessaire, mais ce ne sera pas suffisant. Il faut bien voir aussi que cette région, l'Afrique de l'Ouest, elle connaît des développements qui sont pas seulement celui de la progression rapide de la démographie, puisque je vous rappelle que on s'attend à ce que d'ici 2050, il y ait un peu plus de 800 millions de personnes en Afrique de l'Ouest, qui sera beaucoup plus que l'Union européenne aujourd'hui et l'Union européenne à ce moment-là.
Mais donc ça va encore aggraver les problèmes.
Oui et non, parce que d'un côté, ça crée un défi, bien sûr, phénoménal de trouver pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi à s'employer de manière productive et à trouver des opportunités économiques et sociales. D'un autre côté, ce phénomène est celui de l'urbanisation qui l'accompagne, c'est-à-dire le fait que de plus en plus ces gens vivent dans les villes et non plus à la campagne, c'est une partie de la solution. Parce que tous ces urbains, ce sont des gens qui ne sont plus des producteurs de produits alimentaires, mais qui en sont des consommateurs nets. Les urbains aujourd'hui représentent à peu près 40% de la population de l'Afrique de l'Ouest. Ils représentent 50% de la demande de produits alimentaires et ils représentent 60% du marché en valeur de ces produits alimentaires. Donc une ville de 10 000 habitants, c'est 20 000 repas par jour pour un agriculteur. Alors, ce que nous disons, c'est que la priorité, elle doit être non pas d'essayer d'avoir des stratégies de développement économique axées sur la performance à l'international, par exemple, ça doit être bien sûr.
Donc,
une
plus
partie.
Les grands projets, les.
C'est les zones économiques spéciales, ça font partie certainement de l'artillerie, je dirais, qu'il faut mettre en place, mais. Plus important, il va falloir créer des emplois pour les populations locales dans la transformation de ces produits alimentaires pour nourrir ces villes en croissance très rapide. Ce ne sera pas très productif, ce ne sera pas très rémunérateur, mais ce sera les opportunités économiques et sociales dont ont besoin les jeunes qui sont de plus en plus nombreux.
Donc une transformation du secteur agricole, donc oui. Des investissements dans ce secteur.
Des investissements. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest qui tiennent leur engagement pris à Maputo en 2003 de consacrer 10% du budget de l'État à l'agriculture. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas du Mali, du Burkina, mais en général pas des autres pays. Donc il y a beaucoup à faire ici. Mais il y a aussi beaucoup à faire pour mieux relier les villes aux campagnes, permettre la mise en place de chaînes de froid qui fonctionnent, permettre la libre circulation des biens qui, sur le papier, existent, mais qui, dans les faits, restent très difficile et permettre également de connecter ces marchés urbains en expansion rapide aux producteurs des régions agricoles.
Mais cette urbanisation qui correspond donc à une démographie galopante, elle porte en elle-même ses propres fléaux parce que si les jeunes en particulier n'ont pas d'emploi et donc ne rêvent que de partir avec tous les périls que l'on sait, comment est-ce que ces populations croissantes peuvent trouver une autre solution que l'exil ?
Il faut leur donner les opportunités dans leur région, dans leur pays et dans les pays avoisinants. Il n'y aura pas de développement des pays d'Afrique de l'Ouest séparément les uns des autres. Ce sera forcément par le biais d'une intégration régionale plus approfondie. Aujourd'hui, une réponse au problème, au désir de chercher un avenir meilleur ailleurs, c'est de permettre à ces jeunes de les trouver dans la région. On a fait pas mal d'études sur la contribution des migrants, parce que n'oublions pas que 75% des migrants africains sont en Afrique, ne sont pas ailleurs.
Donc des mouvements intra-africains, dont on parle très peu d'ailleurs.
Dont on parle peu, alors que c'est le phénomène dominant, et on s'est penché sur leur contribution économique au pays d'accueil, elle est en général très positive. C'est-à-dire qu'il y a un gain économique de la migration qui aujourd'hui n'est pas véritablement l'objet de politiques publiques actives de la part des pays d'Afrique.
Malgré les rivalités et les violences interethniques qui à chaque fois, enfin on se souvient de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en particulier, flambent dès qu'il y a des mouvements de population qui bouleversent l'équilibre ethnique.
Alors là aussi, les mouvements de population, c'est plutôt l'ordre naturel des choses, et plus ou moins empêché par les structures politiques en place. Mais encore une fois, ce ne sont pas ces mouvements de population qui provoquent les tensions, qui provoquent les violences. Il y a un moment où un entrepreneur politique va utiliser, c'était pareil en Europe, c'est pas propre à l'Afrique, utiliser les tensions réelles ou supposées entre les populations pour son propre intérêt, mais ce ne sont jamais les facteurs déclenchant des violences. Au contraire, ce qu'on voit, c'est que sur le plan économique, les pays d'accueil, y compris au niveau des marchés de l'emploi, bénéficient en général de l'arrivée de ces migrants africains.
Et ça, ce sont des arguments auxquels les gouvernements locaux sont sensibles.
De plus en plus, on voit de plus en plus se mettre en place des stratégies pour mieux intégrer les migrants. Il y a beaucoup à faire, notamment pour protéger leurs droits, pour leur permettre de donner aussi la pleine mesure de leur potentiel économique. Mais le point sur lequel j'aimerais revenir, c'est celui dont vous parliez au début, c'est celui des pays de l'OCDE, donc des pays riches, et de leur action vis-à-vis de ces pays qui sont en proie à des violences, à des déstabilisations. On a parlé de leur implication sur le plan sécuritaire. Dans le domaine du développement, nous, ce qu'on remarque, c'est que l'aide de long terme au développement de ces pays est plutôt en baisse. Alors que parallèlement, les pays riches ont eu tendance ces dernières années à augmenter considérablement la part de leur aide publique au développement qui était dépensée chez eux pour l'accueil des immigrants, des réfugiés qui viennent du Moyen-Orient ou d'Afrique. Et là, je pense qu'il y a, il faut de toute urgence rééquilibrer cette action dans le sens d'un développement de long terme. Bien sûr, c'est plus frustrant parce que les résultats se font moins voir à court terme.
Oui, et puis vis-à-vis des opinions publiques en Europe, c'est évidemment moins spectaculaire.
Mais c'est un investissement qui n'est pas seulement dans la prospérité et la sécurité de ces pays, c'est aussi un investissement dans la sécurité et la prospérité des pays donneurs eux-mêmes.
Mais le lien, c'est évidemment cette idée, notamment au Niger, de créer des centres de filtrage, si j'ose dire, des gens qui veulent émigrer en Europe. Alors, donc jusqu'à quel point est-ce que cette ébauche de politique dans ces pays-là, dans les pays de transit, devrait ou non s'accompagner des projets de développement dont vous faites état?
Ça doit absolument aller de pair, mais il y aura une partie de co-construction des politiques migratoires des pays d'Afrique de l'Ouest avec leurs partenaires, mais il ne faut pas que ce soit seulement l'agenda de sécuritaire social de l'Union européenne qui guide les choix des pays d'Afrique de l'Ouest en matière de politique migratoire. Il faut quand même s'approprier la dimension de développement économique qui va avec ces flux de population.
Alain Antil, je rappelle que vous dirigez le Centre Afrique subsaharienne à l'Institut français des relations internationales. On en revient bien évidemment à l'incurie des États en question. C'est-à-dire que, certes, les enjeux migratoires, les enjeux de protection des populations, on en revient aux problèmes sécuritaires d'abord. Où en est cette ébauche de coopération militaire entre les cinq pays du Sahel?
Les cinq pays du Sahel ont créé le G5 Sahel, une idée qui a germé en 2014 et qui s'est traduit à partir de 2015-2016 par l'établissement à Nouakchott d'un secrétariat permanent.
Nouakchott, capitale de la Mauritanie.
Oui, et de conférences de ministres et de présidents. L'idée est de coordonner les efforts sécuritaires mais aussi économiques. La philosophie de ce G5, c'est un organisme de développement avec un bras armé. Et le deuxième point, c'est que c'est de co-gérer les espaces frontaliers d'un point de vue sécuritaire, mais aussi d'axer les efforts de développement sur ces zones frontalières.
Avec donc des troupes, des soldats de ces cinq pays, qui auraient le droit, si j'ai bien compris, de mener des opérations transfrontalières.
Oui.
Enfin, sur le papier.
Oui, c'est déjà le cas. Il y a en fait la force du G5 Sahel qui a été créée, qui a des problèmes de financement. Il y a trois états-majors sur trois, ce qu'on appelle trois fuseaux différents, c'est-à-dire sur la frontière entre le Mali et la Mauritanie, sur la zone des trois frontières Mali-Burkina Faso-Niger et une autre sur la frontière Tchad et Niger. Et l'idée, c'est de faire des opérations communes avec des droits de poursuite, effectivement. Je crois que c'est à 50 km à l'intérieur du pays voisin.
Enfin, jusqu'à présent, ça n'a pas été très concluant.
Ouais. Il y a eu des opérations au lancement de cette structure, notamment dans le fuseau central. Mais il y a le centre opérationnel de cette force qui était au centre du Mali, à Sévaré, je crois, a été attaqué pendant l'été.
Par les
mouvements islamistes. Donc ça n'a pas rassuré sur l'efficacité de cette structure qui n'arrive pas à défendre son propre PC.
Qui a dû déménager, donc qui a quitté le centre du Mali pour aller dans
Bamako,
la capitale.
Voilà, et c'est un général mauritanien aujourd'hui, le général Anena, qui dirige cette force. Et aujourd'hui, elle n'est pas très très active. Apparemment, ils demandent des fonds pour acheter des armes et des équipements de protection. Et disons que leurs partenaires, et notamment leurs partenaires français, s'inquiètent du piétinement de cette force.
Alors, c'est la Russie, semble-t-il, qui bloque le financement par l'ONU. Qui a été demandé par l'Union africaine.
Les Anglais et les Américains.
Ah bon.
Les Chinois et les Russes n'étaient pas contre l'adoption, je crois, du chapitre 7 qui était demandé par la France.
Les Américains, en revanche, disent qu'il vaut mieux continuer à faire du bilatéral et on ne veut pas entendre parler. D'accord. Et alors, qui finance cette ébauche de G5 Sahel? Ce qui est préoccupant, c'est qu'ils sont quand même, eux, censés prendre le relais de Barkhane, parce que on peut imaginer que les Français vont quand même pas rester indéfiniment et mettre en péril à la fois la vie des militaires et puis aussi consacrer autant de ressources.
L'opération Épervier, quand elle a été montée en 1986, est une opération temporaire qui a duré jusqu'à ce que Barkhane la remplace.
Oui.
Donc tous les gens qui travaillent sur cette zone savent que Barkhane est un dispositif qui a été conçu pour durer dans le temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas l'espoir que la force du G5 Sahel se monte en puissance. Et les présidents maliens disent l'argent qui va vers la MINUSMA pourra être guidé vers la force du G5 pour qu'elle fasse le travail de la MINUSMA.
La difficulté étant, et on l'a bien compris grâce à vous tous, c'est que le désordre et le chaos et la guerre, c'est aussi un business. Merci en tout cas à vous, Alain Antil, donc directeur du Centre Afrique subsaharienne à l'IFRI. Vous avez publié précisément dans le Ramsès 2019, qui est donc le répertoire extrêmement complet et passionnant publié aux éditions d'UNO sur les chocs du futur, vous avez publié un papier sur le G5 Sahel. Merci à vous, Alexandra Novoselov. Vous avez dirigé un ouvrage collectif sur le Conseil de sécurité des Nations Unies entre impuissance et toute puissance au CNRS. En 2016, et un autre ouvrage, Des ponts entre les hommes. Henri Bernard, Solignac, Lecomte, je rappelle bien sûr les nombreuses publications de l'OCDE consacrées au Sahel et aux questions de développement en Afrique de l'Ouest. Je remercie aussi Anne Doquet qui a publié un ouvrage sur les masques d'Ogon aux éditions Cartala en 99. Merci à Eric Scholl, comme tous les samedis, à Luc-Jean Reynaud, notre réalisateur, Pierre Foussillon à la technique, Meryl Moneghetti mettra sur le site de notre émission toute la bibliographie nécessaire, et comme tous les samedis, vous avez rendez-vous maintenant avec Hervé Gardette, et encore une fois, très bonne année.